Radio G 101.5 FM. Hier, c'est parti pour la quatrième édition de la saison radiophonique 2020-2021. Bonjour à toutes et bonjour à tous. On est très très heureux de vous accueillir. Une émission particulièrement chargée cette semaine. Et puis on va la fêter tous ensemble parce qu'il y a du monde d'une part. Et puis ensuite parce que c'est notre dernière émission en direct. Puisque la bonne nouvelle, vous la connaissez. L'Anjou va se calfeutrer à partir de 21h. À partir de ce week-end, ça rentre en piste à partir de vendredi minuit et tous les soirs de 21h à 6h, on reste à la maison. Nous avons des tas d'invités et nous avons un thème cette semaine qui est être LGBTI+, être croyant, et nous allons aborder à cette occasion la grande nouvelle qui est l'annonce du pape qui a été rendue publique hier, mais pas que. Nous allons traiter également des thérapies de conversion qui nous pourrissent quand même, il faut bien le dire, la vie et pas qu'à nous. Nous aurons des invités que je vais vous présenter dans quelques instants. Nous aurons Alix Le Grill qui est coprésident de David et Jonathan et qui est sur Angers. Nous aurons Claire Mériot également du collectif Croyante LGBT Anjou. Elle est accompagnée ici d'Estelle Lemar. Et puis nous aurons également notre journaliste en direct de différents bureaux à travers le monde. Vous allez voir, c'est une nouvelle rubrique et ça ne sera pas piqué des hannetons. En tout cas, j'espère que vous en profiterez et que vous prendrez plein d'informations nécessaires. Comme chaque semaine, nous ouvrons notre grand cahier de l'agenda. Alors, vous savez, il est grand par la forme, mais par le contenu, il va être un peu plus petit. Monsieur le journaliste, bonjour.
Bonjour. Bonjour, bonsoir.
C'est vrai.
Oui.
Alors, vous aviez une annonce à nous faire de la part de la PGL.
Oui, effectivement, j'ai eu un communiqué qui est tombé sur mon téléscripteur pendant le trajet de la part de Gaël, qui nous faisait part et qui aimerait beaucoup qu'on annonce, donc on l'annonce, Gaël, la réunion de l'APGL, l'Association des parents gays et lesbiens, qui se fera à l'entre-deux dimanche 15 novembre, notez sur vos tablettes, à 17h30. Et cette réunion de l'APGL sera ouverte à toutes et à tous, qu'on se le dise.
Donc on pourra bien sûr, tous ceux qui voudront y aller pourront en profiter, il n'y a aucun problème de ce côté-là, et ça reste véritablement un temps important pour les homoparents potentiellement que chacun et chacune peut être. Alors en ce qui concerne Quasar, les permanences dans les différents bureaux de Quasar le samedi de 17h à 19h sont maintenues, bien
oui,
évidemment.
Nous tenons bon.
Mais dans la journée, il va falloir que nous adaptions également avec le taux d'incidence qui, je vous le rappelle, sur l'Anjou est monté à 200 ces jours-ci, nos réunions, que nous ne soyons pas trop nombreux. Donc on va continuer à être présents, mais il faudra évidemment nous adapter, et vous voudrez bien nous en excuser s'il y a des moments, on ne peut pas accueillir tout le monde, mais c'est quand même quelque chose qui est assez logique dans la prévention à la Covid-19. Donc on vous donnera d'autres détails sur le site au fur et à mesure que les décisions seront prises, et vous serez parfaitement informé. En tout cas, notre grande tristesse, la soirée du 9 novembre prévue aux Folies Angevines sur la thématique du film Enfant de malheur, le droit d'asile, est évidemment annulée. Nous allons évidemment voir avec nos partenaires des Folies Angevines si on ne peut pas reprogrammer, ce qui serait quand même une très bonne nouvelle. Nous avons voulu particulièrement, dans ce Quasar on the Air, nous adresser à tout le monde, mais aussi aux différentes personnes, lesbiennes, gays, bi, trans, intersexes, qui sont croyants et croyantes. Et dans ces cas-là, nous allons nous adresser sur une large fourchette de possibilités de croyances, de foi, de questionnements aussi, et en corrélation particulière avec l'actualité, la déclaration du pape que vous avez dû, évidemment, entendre, ou au moins dont vous avez entendu parler. Nous aurons différents invités, mais elles sont là, autant profiter de les accueillir. Bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes timide, hein, je sens ça. Hein. On s'approche bien des micros. Hein. Alors, nous avons autour de la table, nous avons Alix Le Grill qui est coprésidente de David et Jonathan, l'association qui est nationale. Mais toi, Alix, tu vis bien à Angers, hein, c'est ça, hein.
Et oui, j'ai cette chance.
Tu as cette chance, d'accord. Et puis, Claire Mériot, bonjour.
Bonjour.
Toi, tu fais partie du collectif croyants et croyantes LGBT Anjou. Tu vas nous expliquer de quoi il s'agit.
Ouais.
Et puis Estelle, bonjour. Estelle Lemar, tu vas nous expliquer aussi en quoi ça consiste et pourquoi tout cela est né. Alors tout de suite, Alix, en t'approchant bien bien près du micro, est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient l'idée de David et Jonathan et qu'est-ce que propose l'association au quotidien?
Alors, David et Jonathan va fêter ses 50 ans l'an prochain. Elle a été fondée par un groupe de personnes, dont entre autres Jacques Perotti, qui était l'ancien secrétaire de l'abbé Pierre, avec une double mission. La première, c'est de pouvoir accueillir et accompagner des personnes donc chrétiennes, mais de toutes les sensibilités chrétiennes, qu'elles soient catholiques, protestantes, orthodoxes et homosexuelles et transgenres, de pouvoir les accueillir, les accompagner dans la conciliation de cette double identité, dans un, voilà, dans, avec un esprit de confidentialité. Voilà. Et la deuxième, le deuxième volet, de la deuxième vocation de David et Jonathan, c'est vraiment de porter un message dans les communautés religieuses et auprès des pouvoirs publics sur les questions de discrimination liées à l'homophobie religieuse et pour faire avancer l'inclusivité des personnes LGBT dans les communautés religieuses et en particulier chrétiennes.
Est-ce que je me trompe, ou de mémoire, ou est-ce que c'est toujours en place ou non, j'ai cru lire il y a quelque temps qu'il y avait effectivement des rencontres avec des frères musulmans.
Oui, tout à fait. David et Jonathan, donc, on est à la base, on est plutôt une association chrétienne, mais on pousse l'ouverture œcuménique jusqu'à, voilà, jusqu'aux autres religions. Il y a très régulièrement des événements avec les associations effectivement musulmanes, mais aussi le Beit HaVerim, qui est l'homologue de David et Jonathan pour la communauté juive. Et on travaille aussi avec des associations qui visent à la promotion de la coexistence, notamment l'association Coexister, avec qui on travaille beaucoup.
Alors, je précise que nous parlerons également de cette thématique-là, puisque c'est une vaste thématique, et nous n'aurons pas assez le temps de cette heure aujourd'hui, puisque nous accueillerons une députée en fin d'émission, Laurence Van Senebroek, qui nous parlera de sa proposition de loi sur les thérapies de conversion, tout du moins contre les thérapies de conversion. Et donc, nous recevrons la semaine prochaine, puisque nous l'avons enregistré ce week-end, puisqu'il était présent à Angers, Jean-Michel Dunant, qui est le prieur de la communion Béthanie et qui est lui-même un des témoins dans le fameux documentaire de Arte tel qu'il a été présenté il y a à peu près presque un an sur la chaîne, avec tout le battage médiatique qu'il y a eu. Alors Claire et Estelle, vous représentez ce fameux collectif croyants et croyantes LGBT Anjou. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où est venue cette idée et en quoi cela consiste-t-il?
Je vais d'abord commencer par un petit témoignage personnel. Donc je suis Estelle, j'ai 26 ans et je suis angevine, j'ai grandi à Angers. Je viens d'une famille chrétienne, hein, catholique, j'ai reçu finalement toute l'éducation, peut-être un peu traditionnelle, sans non plus qu'on me force à aller à l'église ou en tout cas au catéchisme. Il se trouve que quand j'étais adolescente, donc 14-15 ans, j'ai commencé à me poser des questions. Le jour où, surtout, je suis tombée amoureuse d'une jeune femme. Et là, c'est posé beaucoup de questions a commencé un cheminement interne du fait que, est-ce que je pouvais concilier ma religion, ma foi chrétienne, avec mon orientation sexuelle. Et ça a été un cheminement assez difficile, assez long, puisque je me sentais très seule. Étant donné que dans les groupes, en tout cas dans lesquels j'étais reçue en retraite religieuse, hein, notamment pour la préparation par exemple de la confirmation, il y avait des propos qui n'étaient pas très LGBT friendly.
Et puis tu n'avais pas de modèle positif.
Exactement. On était en 2010, ouais, dans les années 2010, donc avant le mariage pour tous. Et à la suite de ça, dans ma vie d'adulte, de jeune adulte, hein, j'ai fait des rencontres. J'ai rencontré notamment Claire, qui est à côté de moi et avec qui nous avons accroché sur ces sujets-là, hein, au-delà de l'amitié que nous avons. Mm-hmm. Voilà, c'est aussi ce qui a été fondateur, je pense, pour...
Et toi, Claire ?
Donc j'ai un peu le même parcours qu'Estelle sur le sujet familial, et c'est vrai qu'on s'est retrouvé à Angers à plusieurs dans ce cas-là, ce qui est assez chouette parce que, comme le disait Estelle, c'est des sujets sur lesquels on n'ose pas forcément s'exprimer, en tout cas dans des cadres religieux. Là, il se trouve qu'on a eu la chance d'en parler ensemble et d'avoir le projet de monter ce collectif-là. Donc on a organisé plusieurs rencontres, dont une avec l'association Contact, qu'on remercie d'ailleurs de cette opportunité d'échanger avec eux. Voilà, l'objectif de ces rencontres, alors il y a plusieurs formes. Il y en a une qui consiste plus à réunir des personnes qui ont besoin de parler de ce sujet-là, donc soit des personnes qui sont directement concernées par la question, mais aussi des accompagnateurs éventuels qui travaillent ou qui sont bénévoles dans des associations chrétiennes ou autres, et qui ne connaissent pas le sujet, donc qui ont besoin d'être informés et sensibilisés sur ce sujet-là. Et effectivement, on fait aussi des rencontres avec des invités de marque, dont Jean-Michel Dunant, donc, qui est venu samedi à Angers.
Parce que vous organisiez donc une conférence qu'il donnait avec le public qui pouvait venir poser des questions sur cette question justement de comment concilier sa foi, en tout cas de lui, de son expérience, de son témoignage, et en même temps, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme stratégie contre les thérapies de conversion, et aussi vis-à-vis de l'institution catholique, entre autres.
Exactement, c'était un moment très fort parce qu'en plus on a pu le faire au sein du diocèse d'Angers et en partenariat avec la librairie Biblos, donc qui est la librairie du diocèse. Et voilà, dans la salle étaient présents aussi, encore une fois, des personnes issues de communautés religieuses. Mmh. Qui ont pu entendre ce témoignage qui était vraiment simple et sans tabou, et je pense et j'espère que, enfin, on a eu des retours déjà de quelques personnes que ça aura des répercussions sur par la suite
sur le diocèse, c'est ça?
Voilà.
D'accord. Et si on veut contacter le collectif, on s'adresse où, comment, qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors, nous avons une adresse mail. C'est croyant LGBT Anjou. Alors, oui. Croyant avec un S. Mm-hmm. LGBT Anjou en minuscule, bien sûr. @gmail.com.
Est-ce qu'il y a déjà réseaux sociaux d'organiser quelque chose qui arrive?
Alors, nous avons aussi un groupe Facebook qui s'intitule LGBT et croyant. Oui. C'est le et Asperluette.
Oui. Asperluette, d'accord. Toi, Alix, comme vous tous et nous tous, on a évidemment entendu cette déclaration du pape François. Qu'est-ce que ça évoque dans la thématique de pouvoir concilier son homosexualité, sa bisexualité, voire sa transidentité, et d'être reconnu avec cette parole qui n'est pas encore un appel au mariage religieux, mais au moins une union civile? Ça provoque quoi comme réaction de ta part et de David et Jonathan?
La réaction, elle est double. Alors, dans un premier temps, c'est plutôt un soulagement et c'est quelque chose de beau à entendre. En particulier, dans la lignée de ce qui contraste un petit peu avec ce qu'il avait déjà dit dans sa phrase « Qui suis-je pour juger ?» ou dans l'encyclique Amoris Laetitia, là, il parle vraiment des personnes homosexuelles non plus comme personnes, mais vraiment comme relation de couple. Et ça, c'est effectivement quelque chose d'important parce qu'il ne l'avait pas encore fait. Après, c'est déjà un gros progrès. Je pense que, comme Qui suis-je pour juger a eu des applications dans les diocèses et a eu des effets dans les communautés, cette phrase en aura certainement, et je l'espère, des répercussions très positives. En tout cas, je pense qu'elle donnera de l'espoir au moins à plusieurs personnes. Mais on reste peut-être un petit peu sur notre faim. Alors, d'une part, effectivement, parce que on parle d'union civile, mais beaucoup attendent qu'on puisse reconnaître leur union et la célébrer de manière religieuse, que ce soit effectivement, tu parlais de mariage, mais ça peut très bien aussi être sous la forme d'une bénédiction. Et la deuxième chose, c'est, on peut Je pense vraiment qu'on ne peut plus, tu parlais de thérapie de conversion, je ferai tout à fait le lien avec ça, on ne peut plus aujourd'hui se contenter de phrases données en off, etc. Alors que les textes officiels qui existent, qui sont publiés sous différentes formes, y compris à des jeunes, etc., disent encore que l'homosexualité est un désordre intrinsèquement désordonné et que l'identité de genre n'existe pas. Tant qu'il y aura ces textes-là, des mouvements de thérapie, bon, je dirais peut-être pas de conversion, mais on dirait peut-être plutôt de thérapie d'aversion, c'est-à-dire qui pousse à la continence, pourront toujours se réfugier derrière ces textes. Et ça aura des effets encore délétères. Donc ce qu'on attend vraiment, c'est que le contenu de ces propos se traduise au niveau des textes officiels. Mais d'après ce qu'il semble se dire dans l'entourage du pape, l'évolution de la doctrine n'est pas encore pour demain.
D'accord. Mais vous estimez toutes et tous ici que c'est quand même un premier pas vers quelque chose de potentiellement existant, c'est ça ?
Oui, c'est certain encore que, comme je vous l'ai dit, c'est la première fois qu'on parle de la notion de couple. Et vu les effets positifs qu'a eu le Qui suis-je pour juger, je pense que ça va faire réfléchir. Et en tout cas, moi je pense aux personnes qui peuvent se sentir seules, qui peuvent ne pas être elles-mêmes dans leur famille, dans leur travail, pour qui ça peut être une très grande souffrance. D'entendre ces personnes-là, y compris des personnes qui sont militantes comme moi, ça donne une légitimité supplémentaire. Et je pense surtout à ces personnes-là. Je pense qu'elles ont eu, surtout dans le contexte dur qu'on connaît aujourd'hui, un très fort soulagement et j'en suis très heureuse. Mais encore une fois, et c'est un peu dans l'ADN de David et Jonathan, il faut aller plus loin. Et on se battra pour aller plus loin.
Bon, en tout cas, c'est une bonne approche et une bonne nouvelle. Alors, il semble que le téléphone ne fonctionne pas à Radio G, donc ça va être vraiment un problème, parce que si on va voir nos invités tout à l'heure, ça va tout nous bousculer un tout petit peu, vous comprenez bien. Donc, ce que je vous propose, puisque nous n'aurons pas la rubrique People, malheureusement, c'est quand même de vous demander comment est-ce que des gens qui viendraient vous voir en vous disant, voilà, je suis lesbienne, gay, bi-trans, et je n'arrive pas à concilier ma vie avec la foi, en tout cas, on me dit que je n'ai pas ma place. Vous, c'est quoi votre réaction ? C'est de vous battre et de dire aux gens, battez-vous, faites-vous accepter. Quelle est la bonne solution ? Allons-y.
Moi, je pense que dans un premier temps, c'est déjà de pouvoir libérer la parole. Parce que un des problèmes qu'il y a, c'est que les personnes n'osent pas s'exprimer dans les communautés. Et donc d'avoir un lieu, un espace où les personnes se sentent en sécurité pour pouvoir s'exprimer et dire ce qu'elles ressentent, c'est déjà très important.
Et toi, Estelle, non ? Tu as une impression, non ?
Ces groupes d'échange que nous créons et ces rencontres se font dans l'écoute et dans la bienveillance, parce qu'on cherche vraiment, comme le disait Claire, un espace où les personnes qui viennent nous voir, qu'ils soient croyants et LGBT, qu'ils soient tout simplement LGBT et athées, puissent s'exprimer librement et puissent recevoir un véritable échange et une véritable écoute, je le redis.
En tout cas, oui, Alix, tu voulais dire ?
Non, je voulais juste une petite phrase. Je pense que c'est Jean-Michel Dunant qui a eu ses propos en disant que, aujourd'hui, les personnes qui sont croyantes, je pense que ça c'est clair, Dieu ne nous a fait que pour être heureux. Et on ne peut être heureux que si on est bien dans notre esprit, mais aussi dans notre corps. Et donc si on arrive à concilier les deux, c'est là où on sera vraiment heureux, c'est là où on sera pleinement enfant de Dieu. Donc n'ayez pas peur, écoutez, ouvrez-vous, et vous n'êtes pas tout seul. Et c'est en étant heureux, donc c'est en vivant pleinement votre vie amoureuse et votre vie affective, que vous serez heureux, que vous serez pleinement enfant de Dieu.
D'accord, bon voilà en tout cas une bonne nouvelle finalement dans toutes celles qu'on pouvait entendre pour les personnes croyantes. Vous comprenez, vous, que des lesbiennes, des gays, des bi, des trans rejettent complètement la religion, voire vous rejettent vous parce que vous êtes croyante. Est-ce que ça vous le comprenez ?
Alors le rejet directement de ma personne, en tout cas je vais parler au jeu, par rapport au fait que je sois lesbienne et croyante, ne m'est pas arrivé. On m'a parfois dans la communauté LGBT, certaines personnes m'ont dit, mais moi j'arrive pas à concevoir que les deux puissent être compatibles. Et moi je lui ai dit, mais moi ça fait partie de mon identité. C'est ce que je suis chrétienne. et je suis lesbienne. Et c'est mon entièreté, quoi.
Il y a vraiment des espaces de dialogue, donc je pense à David et Jonathan, mais pas qu'à simplement. Mais est-ce qu'il y a dans la ville des espaces de dialogue, y compris avec l'UCO par exemple, ou est-ce que c'est vraiment fermé et impossible ?
Le constat que j'ai fait à Angers, c'est qu'on est encore extrêmement balbutiant sur ces questions. Moi, j'ai pris des attaches, comme j'habite Angers, j'ai pris des attaches avec le diocèse et les institutions catholiques. Ils sont encore vraiment en balbutiant sur ce sujet par rapport à d'autres diocèses qui étaient beaucoup plus mûrs, qui ont vraiment développé des groupes, etc., voire dans certaines paroisses protestantes, comme à Strasbourg, une paroisse vraiment inclusive où toute l'assemblée fait une célébration le jour de la Pride et tout le monde va marcher à la Pride ensemble, hétéro comme LGBT. Mais donc pas d'espace hormis le collectif créé par Claire et Estelle, mais les dialogues se font et les portes s'ouvrent.
Bien, ben on se retrouve dans quelques instants.
Radio G. Just wanna tell you. 101.5 FM.
Vous êtes bien avec nous, restez Woodkid.
Washed in thick black haze, we're not unfailing, I see. I can't fix this mud piece I am. And I feel your love expire. I know I'm not made in your likeness. You're not made for my darkness. I know. I do try, but I'm hopeless. Watch my fears unravel. Can you see the truth of me? I don't hold the light required for this endless walk on wire. I know. And emerald, I've never been on time for you. I break the rules and protocols, and I just keep on missing you. Strange nights, and after all, would you be waiting if you knew?
Superbe nouveau titre de Woodkid, nouvel album qui vient d'être lancé, et je crois que quelqu'un va nous en parler tout spécialement. En tout cas, on espère qu'il va nous en parler tout spécialement. C'est évidemment Julien qui arrive.
coucou avec la Minute People, du coup. J'espère que vous m'entendez bien, parce qu'on a eu des petits soucis de...
Ben oui,
de télécommunication, j'espère que vous m'entendez bien. Donc oui, donc tout à fait, donc Woodkid qui vient de sortir son deuxième album, donc ce Sérum Top, qui s'appelle S16.
D'accord, et alors tu l'as écouté toi déjà ou pas?
Alors, j'ai mal fait mon travail, donc j'ai écouté quelques extraits comme ça, hein, mais si Woodkid veut bien un petit attache musical pour me le faire écouter en profondeur, je suis tout oui.
Bon bah écoute, on en profitera. Quelle autre information people, s'il te plaît, Julien?
Alors toujours dans ma musique, aujourd'hui, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 2000-2010, il y a un groupe qui s'appelait Tokyo Hotel qui a aujourd'hui ressorti une chanson. Bon, alors ils n'ont pas été très originaux, hein, par rapport à leur début, ils ont repris leur titre phare, donc Monsoon, et ils l'ont customisé en mode 2020.
Un et alors, ça donne quoi?
C'est mignon, c'est pas mal. Voilà.
Donc tu aimes quoi en fait?
Voilà, tout à fait. Bon. Je suis un inconditionnel. Et donc du coup, dernier point people, donc c'est un peu plus sérieux pour le coup, c'est Gareth Thomas, donc c'est un rugbyman gay du coup, qui a fait son coming out gay et séropositif l'année dernière. Donc là, il vient de s'engager dans une campagne contre la sérophobie. Et voilà.
Et donc ça, tu apprécies?
Ah bah oui, moi tout ce qui touche à l'acceptation, la bienveillance, c'est tout pour moi.
C'est tout pour toi. Bon bah écoute, merci. Parfait. Écoute, on te souhaite vraiment... tu es en train de prendre ton bain là, parce que j'entends de l'eau derrière. C'est quoi ce truc? C'est du Julien tout craché,
oui,
ça.
C'est dans mon bain.
Ça c'est pas vrai. Non, tu n'as pas osé faire ça.
Ah bah si, bah, on parle de Woodkid et de... Voilà.
Ah oui, ça te liquidifie, quoi, si je comprends bien.
Exactement.
Quoi. Bon, allez, tu restes sage, d'accord?
Ça marche.
Bon, merci, allez, grosse bise et merci Julien. À bientôt. Bye. En tout cas, on vous souhaite une bonne soirée hein, entre nous, là, véritablement, sur Radio G. C'est Quasar on the Air. Et puis, on va inaugurer une nouveauté. On aime tellement les choses nouvelles qu'on veut vraiment vous en faire profiter. Vous écoutez Quasar on the Air, il est 20h26. Et ce sont les titres de l'info.
Ah, c'est mes titres.
Oui.
Tu devais me parler du bureau de Hong Kong juste avant.
Mais oui, mais
d'accord.
On va en parler
d'accord, il y a des pièges en plus. Alors les titres, Argentine, une loi de discrimination positive en faveur des personnes transgenres vient d'être votée. États-Unis, la communauté gay se moque du message des suprématistes blancs sur Twitter. Pologne, des personnalités internationales dénoncent la politique discriminatoire du gouvernement alors que les agressions homophobes se multiplient. Et c'est une première en Birmanie, un candidat aux élections affiche son homosexualité.
On va pouvoir prendre des nouvelles du bureau de Hong Kong, où tu te trouves, Jean-Luc ?
Oui, ben Hong Kong, il faisait pas terrible aujourd'hui côté météo. Il faisait même un petit peu de vent au 250e étage. Ça remuait sec où était mon studio. Je suis bien content d'être venu.
Bon, mais en fait, tu vas réussir à nous informer quand même, alors.
Oui, je vais vous parler plus en détail de l'Argentine. En Argentine, où une nouvelle loi signée le 4 septembre, dite de discrimination positive, va désormais réserver 1% de l'emploi de l'État argentin aux personnes transgenres. Chaque petit pas pour notre communauté est énorme, explique Suzy Chok, écrivaine et chanteuse transgenre. Vous n'avez pas idée de ce que ça signifie ici qu'un transgenre apparaisse à la télévision, en tant que journaliste, que penseur, pour parler pour nous-mêmes et pour que les autres cessent de parler à notre place. La discrimination en Argentine plonge près d'un transgenre sur cinq dans une situation de pauvreté. Ma communauté doit clairement démontrer ce genre d'acceptation. D'abord les parents qui ne vous aiment pas, la police qui vous persécute et enfin l'État qui ne vous laisse pas de place, résume Suzy Chok. Depuis 2012, l'Argentine permet aux personnes transgenres de changer d'identité. Rappelons qu'en France, le changement d'état civil libre et gratuit n'est toujours pas à l'ordre du jour, il reste toujours judiciarisé et le plus souvent psychiatrisé. Aux États-Unis, les gays détournent le mot dièse des suprématistes blancs en utilisant le mot dièse Proud Boys. La communauté LGBT+ a trollé ce groupuscule d'extrême droite en postant des images d'hommes qui s'embrassent. Les Proud Boys, groupuscule prônant la supériorité de la race blanche, a été récemment placé au cœur de l'actualité américaine par Donald Trump. Lors du débat avec Joe Biden, le Donald avait été appelé par le modérateur à condamner explicitement les suprématistes blancs, dont beaucoup le soutiennent. Trump avait esquivé la question et préféré appeler les Proud Boys, fréquemment armés lors de leur rassemblement, à reculer et à se tenir prêts. George Takei, mythique Monsieur Sulu, pour les plus anciens d'entre nous, de la série Star Trek et icône de la communauté gay aux États-Unis, a lancé l'idée sur Twitter de détourner le message et le nom des Proud Boys. Et si les gays prenaient des photos d'eux en train de s'embrasser ou en train de faire des choses très gays et les publiaient avec le hashtag Proud Boys, je parie que ça les dérangerait pas mal, a-t-il écrit. Eh ben bingo, ces quelques 3 millions d'abonnés ne l'ont pas déçu, ils ont inondé les réseaux sociaux de photos avec le fameux hashtag, y compris des stars de la télé ou des membres des forces armées canadiennes. Carlos J. Smith, premier élu issu de la communauté LGBTQ qui siège à la Chambre des représentants de Floride, a ainsi publié une série de photos le montrant en compagnie de son partenaire, proclamant « Vos deux Proud Boys préférés se tiennent prêts à voter ». Il y a un message. Le leader des Proud Boys a assuré à la chaîne CNN que cette campagne ne gênait pas son organisation. Ce n'est pas une insulte, nous ne sommes pas homophobes, a-t-il dit. Vous le croyez-vous ?
Et on part direction maintenant la Pologne.
Eh oui, les agressions homophobes se multiplient. C'est sous ce titre que plus de 70 personnalités internationales ont accusé le parti conservatoire Droit et Justice, PiS, au pouvoir en Pologne de cautionner les violences contre les personnes LGBT+, dans une lettre ouverte rendue publique en août. Dans ce texte adressé à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, les signataires ont exprimé leur solidarité avec les militants et leurs alliés qui sont détenus, brutalisés et intimidés. Les agressions homophobes se multiplient en Pologne car elles sont tolérées par le parti au pouvoir qui a fait des minorités sexuelles son bouc émissaire. Les signataires, parmi lesquels figurent le réalisateur espagnol Pedro Almodovar, la romancière canadienne Margaret Atwood, la prix Nobel de littérature polonaise Olga Tokarczuk et la philosophe américaine Judith Butler, appelle le gouvernement polonais à cesser de prendre pour cible les minorités sexuelles, à ne plus soutenir les organisations qui répandent l'homophobie et à demander des comptes à ceux qui sont responsables des arrestations violentes et illégales.
Et la Birmanie maintenant pour
la
finir ?
La Birmanie, oui, en Birmanie, un candidat aux élections qui affiche son homosexualité, c'est quelque chose. C'est une première dans ce pays où les relations entre personnes de même sexe restent illégales, même si les mentalités commencent à évoluer. En pleine campagne électorale pour renouveler le Parlement et les assemblées régionales le 8 novembre prochain, ce fleuriste de 39 ans qui brigue un mandat de conseiller régional à Mandalay, dans le centre du pays, a décidé pour la première fois d'afficher ouvertement son homosexualité. En Birmanie, le parti d'Angleterre Aung San Suu Kyi, au pouvoir, n'a pratiquement rien fait pour la communauté gay depuis sa prise de pouvoir en 2015, assurent les associations. La loi, héritée de l'époque coloniale britannique qui punit jusqu'à 10 ans de prison les relations homosexuelles, n'est plus appliquée strictement, mais elle est toujours en vigueur et responsable de discrimination et de harcèlement. Myo Min Thun, le monsieur en question, a décidé de se lancer en politique quand des amis transgenres lui ont raconté avoir été victime d'humiliation et de violences policières. Je fais cela pour être un pionnier, afin que toutes les personnes LGBT sachent que nous ne pouvons être que ceux qui nous voulons, assène le candidat qui s'est aussi consacré à la lutte contre le sida dans une ONG. Moi je dis respect monsieur.
Merci Jean-Luc. On te laisse à Hong Kong, tu vas prendre un avion bientôt et nous rejoindre.
Oui, j'y retourne, mais si le vent se calme, hein, parce que moi je suis pas fort sur le vent.
Radio G 101.5 FM.
Radio G Quasar Anzière 101.5. Nous poursuivons notre émission en ce jeudi soir 22 octobre sur la question de la foi et des croyants et croyantes LGBTI+. Et pour cela, nous accueillons un nouvel invité maintenant avec nous. Il s'agit du docteur imam Ludovic Mohamed Zayed. Bonjour Ludovic. Ludovic qui ne nous entend pas. Est-ce que Ludovic, oui, tu nous entends ? Tu es là ?
Oui, je vous entends bien.
Ah, voilà, merci pouvoir répondre à nos questions. Tu nous appelles donc depuis Marseille. Alors, on te connaît comme pour avoir été le fondateur de HM2F, homosexuels et musulmans de France. Et tu es aujourd'hui directeur de l'Institut Calem. Alors, il y a plein de questions, hein, on va les balayer relativement vite. On va parler d'islam, évidemment, de foi en lien avec son orientation sexuelle ou identité de genre. Mais qu'est-ce qu'un imam en islam? Et surtout, qu'est-ce qu'un imam inclusif comme toi?
Imam en arabe, ça vient du terme même, donc être devant les gens pour faciliter des prières, des bénédictions. Ça n'est pas pour moi un statut, c'est une fonction à un moment donné. Ça n'est pas quelque chose qui est hiérarchisé comme dans l'Église catholique ou d'autres églises, d'autres communautés religieuses qui ont fonctionné autrement. L'islam s'est plutôt constitué dès le début sur la question d'un leadership morcellaire, régional. Et du coup, les imams sont là dans telle ou telle communauté pour essayer de faciliter des pratiques religieuses, des dynamiques sociales communautaires. Ça n'est pas du tout pour moi un statut.
D'accord.
Et être inclusif, c'est rappeler que quand on dit islam, c'est le fait d'être en paix, c'est ce que ça veut dire en arabe, et ça ne veut pas dire soumission, contrairement à la traduction qu'en font certains intellectuels. Mmh. Donc le fait d'être en paix, ça n'est pas compatible, de mon point de vue, avec le fait d'exclure qui que ce soit sur la base de ses origines, de son sexe, de sa sexualité, etc.
Alors, qu'est-ce que l'Institut Calem? Peux-tu nous en dire quelque chose en quelques mots?
Alors, l'Institut Calem, c'est un centre à Marseille, un centre-ville, où on fait principalement de la recherche, de la publication, de la formation sur ces questions-là. Et on fait aussi de l'accueil avec un petit refuge qu'on a, où on a 6 places d'accueil dans le pavillon du jardin de l'Institut. On peut accueillir des gens qui sont principalement, prioritairement, des personnes migrantes LGBT+, originaires d'Afrique du Nord, d'Afrique subsaharienne, du Moyen-Orient, qui sont pour certains, pour la plupart, de confession musulmane ou d'origine musulmane, mais pas tous.
Alors, peux-tu nous dire, entre le Coran, les hadiths, est-ce qu'ils contiennent véritablement la condamnation explicite de l'homosexualité, ou comme pour les chrétiens et les protestants dans l'Ancien Testament, est-ce que c'est une question d'interprétation ou de restitution du texte dans son contexte historique et social?
Alors, déjà, le terme homosexualité n'existe pas
en arabe.
Hein, voilà. Récemment, on a mis à jour le vocabulaire. Donc, c'est el mithli al jinsiya, donc la même T, identitaire, sexuelle. Donc, l'homosexualité c'est un terme qui a été traduit il y a quelques années à peine, une petite dizaine d'années par des associations LGBT+, arabo-musulmanes. Il n'y a rien dans le Coran ni dans la tradition du prophète, paix et bénédiction sur lui, qui condamne l'homosexualité ad nominem. L'histoire de Sodome et Gomorre est rapportée dans le Coran de manière assez détaillée, dans plus de 70 versets, avec le fait qu'il voulait violer des hommes, mais aussi violer les femmes, donc notamment les filles de Lot, que la femme de Lot a été condamnée par le jugement divin à l'époque, c'était il y a plusieurs milliers d'années quand même, parce qu'effectivement le contexte, comme tu le rappelais tout à l'heure, le contexte était un contexte très patriarcal, où certains peuples de Mésopotamie s'adonnaient au viol rituel, au temple de la déesse Ishtar, etc. Donc vraiment, il n'y a rien qui lie directement la question de l'homosexualité telle qu'on la conçoit aujourd'hui à cette condamnation de Sodome et Gomorre dans le Coran. Et dans la tradition du prophète, il y a pléthore de hadiths, de traditions qui nous rappellent que le prophète accueillait ou aurait accueilli, parce que j'y étais pas il y a 14 siècles, des personnes efféminées. Voilà. Je me fais vieux, mais pas à ce point-là. Et il aurait donc accueilli chez lui des personnes, des hommes efféminés qui n'avaient pas de désir envers les femmes, au milieu de ses enfants et de ses femmes, qui ne se voilaient pas devant eux, parce qu'elles n'avaient rien à craindre. Bon, alors déjà, ça rappelle que...
D'accord. Et question, vraiment, en islam, est-ce qu'il existe toutes ces questions de thérapie de conversion, du moins comme on les voit dans certains milieux catholiques ou évangéliques, ou est-ce que ce sont d'autres formes qui sont utilisées?
Alors, il n'y a pas de thérapie de conversion à ma connaissance. Il y a certains exorcismes qui sont pratiqués depuis peu. C'est toujours pareil, le pire vient... dans les années qui nous précèdent. Là, c'est assez récent, ces pratiques-là qui sont apparues d'abord en Afrique du Nord. Moi, quand j'ai vécu en Algérie jusqu'à 95, j'ai connu des gens qui se faisaient exorciser, qui le demandaient d'ailleurs, mais enfin bon, après la pression sociale est telle, parce qu'ils ressentaient des désirs homosexuels. Enfin bon, voilà, bien évidemment, ça ne marche pas. Il n'y a absolument aucune tradition prophétique là-dessus. Il y a deux traditions qui sont rapportées aux prophètes, qui leur aient dit ceci, cela. Mais enfin, c'est des traditions qui ont été rapportées plusieurs siècles après sa mort par des gens qui n'étaient pas considérés par des savants comme des gens de confiance. Donc vraiment, ces thérapies ou ces exorcismes-là, non seulement ne fonctionnent pas, ne correspondent à rien d'authentique en islam, à ma connaissance, et surtout, c'est des procédés qui sont apparus assez récemment, il y a quelques années, quelques décennies tout au plus, parce qu'on a commencé à voir dans le monde arabo-musulman l'homosexualité comme quelque chose d'occidental, qui vient des colons, des colonisateurs, tout ça. Mais bon, tout ça, c'est très récent. Oui. C'est devenu associé à l'islam parce que d'un côté comme de l'autre, de l'échiquier politique aux extrêmes, on a envie de faire croire que ce soit les islamistes, comme on dit, d'un côté, ou les racistes, on va dire. Mm-hmm. On a envie d'associer, voilà, le fascisme, le patriarcat, à l'islam, et je pense que c'était beaucoup plus compliqué que ça, et que l'islam est une création humaine, communautaire, mm-hmm, qu'il évolue, qu'il respire, et que parfois on tombe dans des fossés dont on essaiera de sortir à l'avenir, on n'a pas le choix. Hein.
Tout à fait. Et toi, au niveau où tu es, à Kalem, ou dans les réseaux de personnes que tu connais, est-ce que tu as déjà eu connaissance de cas de suicide de personnes LGBTI musulmanes, en lien avec leur acceptation de leur homosexualité dans leur entourage?
Non, je n'ai pas eu connaissance directement de personnes qu'on suivait ici ou qui sont venues à l'association. À ma connaissance, personne n'a passé le cap, si je puis dire, mais de nombreuses personnes, je suis psychologue aussi, de nombreuses personnes m'ont parlé de leur stress, leur dépression, de la pression sociale, familiale, communautaire, de la violence verbale, physique, que j'ai vécu moi aussi dans la famille. Enfin, donc, ça, oui, c'est quelque chose qui revient souvent. Cette difficulté à assumer à la fois sa sexualité, son genre, et puis son appartenance culturelle à une communauté ou à une famille, tout simplement, qui passe son temps dans certaines familles musulmanes à décider que les femmes devraient être plus comme ci ou comme ça, les juifs, attention, ceci, cela, les homosexuels, ah mon Dieu, quelle abomination. Donc, c'est vrai que c'est souvent, enfin, ces dernières années, ça s'est beaucoup aggravé dans certaines familles musulmanes, mm-hmm, cette question, voilà, de la verbalisation des identités meurtrières, comme l'appellent certains intellectuels, certains romanciers, des identités fascisantes qui se construisent sur le rejet de l'autre, le rejet de tous ceux qui ne seraient pas comme nous, entre guillemets.
Voilà, donc pour les croyants LGBTI, c'est même combat, quelle que soit la confession, finalement. On est bien d'accord, c'est ça.
Bah, je crois qu'on est un peu à la tête de proue, l'avant-garde ou les premiers sacrifiés sur le chemin d'une concorde civile qu'on appelle tous de nos voeux depuis deux décennies maintenant,
oui,
face à tous ces attentats depuis le 11 septembre, les attaques de Charlie Hebdo, encore les choses horribles qui sont passées vendredi ce matin, avec ce professeur, M. Paty, qui a été exécuté dans la rue. Enfin, c'est incroyable qu'on puisse en parler, d'ailleurs, sans être, je sais pas, au bord des larmes. Il y a quelques années, ça nous arrivait. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on s'y habitue.
Et malheureusement, mais, oui. Mmh. Et que les hommages,
on est à l'intersection.
Voilà. En tout cas,
et puis on est à l'intersection de ces deux luttes-là. Donc, je pense qu'on peut être un pont pour le dialogue. Encore faut-il être entendu, oui.
Voilà, on est bien d'accord. On te souhaite une très 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 belle soirée à Marseille. Alix, Claire et Estelle te saluent. Vous pouvez lui dire bonjour, hein ? Vous pouvez ?
Bonsoir.
Bonsoir.
Eh bien écoute, on te laisse et puis on te dit à très bientôt, d'accord ?
À bientôt, merci beaucoup.
Allez, bon merci, courage. Au revoir.
Au revoir.
Quasar on the air, jeudi 22 octobre. 20h43. Avec ses 27 rédactions dans l'Hexagone et en territoire ultramarin, voici Quasar Info 2e.
Eh bien, le gouvernement a dévoilé mercredi 14 octobre son plan 2020-2023 contre la haine et les discriminations à l'encontre des LGBT. Au total, plus de 42 objectifs pour renforcer les droits des LGBT.
C'est à toi de développer.
Ah, très bien. Tu me demandes pas des nouvelles de Poincé ou je
si.
Suis maintenant
si,
bon, Hong Kong, ça va, c'est
oui,
suffisamment sémillant, mais Poincé, non.
Non, c'est ça.
Eh bien, Poincé, il y a un très bel été indien, on en profite beaucoup sur Poincé, avec une consternation, ce couvre-feu qui va foutre par terre la vie nocturne trépidante de cette riante communauté angevine. Voilà.
On t'écoute.
Quelques 150 mesures ont été présentées le 14 octobre par le gouvernement pour renforcer les droits des personnes LGBT dans le cadre d'un plan national d'action pour l'égalité des droits contre la haine et les discriminations anti-LGBT. Ce plan touche à tous les domaines, famille, école, université, travail, santé, sport. Tous les 6 mois, un point d'étape sera effectué en comité de suivi à partir de mars 2021. Elisabeth Moreno, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, a déclaré sur France Inter « Les personnes LGBT sont totalement invisibilisées. Ce sont des citoyens qui ont des droits, mais qui peinent à faire reconnaître ces droits. » Selon la ministre, le premier but est la reconnaissance réelle et concrète des droits acquis de haute lutte, avec l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Ce plan prévoit aussi de faciliter la filiation pour la mère sociale et pour les enfants nés avant l'adoption de la loi relative à la bioéthique. Pourtant, elle a oublié de préciser que son gouvernement refusait l'ouverture de droits du droit de la PMA aux personnes transgenres et l'arrêt des mutilations sur les enfants intersexes, les personnes intersexes étant les grandes oubliées de cette réforme. La ministre a déclaré « Depuis 2013, les personnes homosexuelles peuvent adopter, mais peu de couples y ont accès. Nous allons travailler avec le Conseil des familles pour comprendre où sont les barrières. L'ambition étant de permettre un accès réel aux droits à l'adoption. Le plan prévoit aussi de sensibiliser les professions médicales pour qu'elles prennent mieux en charge les lesbiennes, les personnes trans, mais aussi les personnes vivant avec le VIH. Le deuxième axe du plan est la lutte contre la haine et la violence anti-LGBT, avec la création d'un site pour éduquer contre les LGBT-phobies, sur lequel le corps enseignant pourra trouver tous les outils et les éléments de langage pour qu'ils puissent s'auto-former. Un guide devrait être rédigé pour mieux accueillir les élèves transgenres dans les écoles. Une autre mesure consiste à poursuivre l'adaptation des formulaires administratifs pour inclure les familles homoparentales. Et là, il y a du boulot. Le hic, en ce qui concerne le site, est que cette auto-formation du corps enseignant dépendra de leur sensibilisation à ce sujet et que, a priori, les profs déjà intéressés ont sans doute déjà contacté des associations telles Quasar qui proposent des interventions de ce type en milieu scolaire et étudiant. Les autres ne s'y intéresseront peut-être pas, d'autant plus que ces consultations du site devraient se faire sur leur temps libre. Pour info, il existe depuis 2013 un guide dossier de 192 pages élaboré par le SNUP FSU intitulé « Éduquer contre l'homophobie dès l'école primaire » qu'on peut trouver facilement sur le net.
On redonne le site ?
Éduquer contre l'homophobie dès l'école primaire, c'est le SNUIP FSU. Il ne me facilite pas la tâche.
Non, c'est vrai.
Le syndicat. Enfin, bon, si vous tapez ça sur votre petite batte de recherche, quel que soit votre moteur de recherche, vous retrouverez, vous importez le dossier, 192 pages, et vous ne serez pas obligé de l'imprimer. Merci pour les forêts. Et puis, vous pourrez le lire sur votre écran.
Merci Jean-Luc et très bonne soirée à Poincé.
Merci, je me réjouis à l'avance.
Radio G. www.radio-g.fr.
On est vraiment dans ce temps de Quasar on the Air sur cette émission thématique et nous reprenons effectivement notre chemin vers la compréhension de ce qui peut être la complexité pour les croyants LGBTI+, de pouvoir vivre leur foi en accomplissant effectivement la plénitude de leur vie quotidienne au sein de la société. Nous avons une nouvelle invitée que je salue, bonjour.
Oui, bonsoir.
Bonsoir. Alors, je vais vous présenter, parce que je vous ai déjà nommé tout à l'heure, mais il est important de le redire. Vous êtes Laurence Van Sennebroek, vous êtes députée LREM de l'Allier, et on vous connaît bien, et on vous remercie parce que vous êtes extirpée des débats sur le plan de financement de la sécurité sociale, puisque vous êtes membre de la commission des affaires sociales. Et donc, grand merci de nous rejoindre pour quelques minutes. Alors,
C'est avec grand plaisir, oui.
C'est gentil. Alors, on vous connaît pour vos interventions en faveur de la PMA, puisque vous connaissez bien le sujet. Vous-même êtes mère biologique d'une fille que vous avez eue par PMA en Belgique. Après Françoise Gaspard, vous êtes seulement, serait-on tenté de dire, la deuxième députée ouvertement lesbienne à siéger à l'Assemblée nationale. Et puis en 2019, fait d'armes, vous avez demandé l'exclusion de votre ex-collègue Agnès Thiel, qui tenait des propos homophobes, et vous avez gagné. En revanche, on vous connaît moins sur deux points. C'est que originairement, vous êtes fonctionnaire de police. Et puis, vous avez aussi, pendant la pandémie du Covid-19, mené un collectif de 12 parlementaires issus de la majorité qui demandaient que l'enveloppe consacrée au parcours de sortie de la prostitution, instaurée en 2016, puisse profiter et subvenir à l'urgence humanitaire des travailleuses et des travailleurs du sexe. Voilà un peu votre parcours. Et vous vous êtes intéressé spécialement à cette question, avec un de vos collègues de la France Insoumise, à ce que pouvaient être les dégâts des thérapies de conversion. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer d'abord pour vous quelle est la définition que vous donnez à la thérapie de conversion et quel a été votre intérêt pour cette question particulièrement ?
Alors, la définition qu'on peut en donner, c'est que ce ne sont pas des thérapies de conversion, puisque en fait thérapie laisserait entendre qu'on peut soigner de l'homosexualité, et je suis bien placée pour vous dire qu'effectivement c'est impossible, et en fait les thérapies auxquelles peuvent être confrontées donc les homosexuels et les gays et les lesbiennes qui sont un peu entraînés par leur famille dans ce genre de thérapie, ce sont souvent des thérapies en lien avec la religion, et là pour le coup les trois religions monothéistes sont concernés. Il y a aussi un grand mouvement évangélique qui nous arrive depuis le milieu des années 90 des États-Unis, justement pour prôner ce genre de pratiques. Et puis il y a aussi donc les thérapies médicales, alors qui peuvent être entreprises simplement parfois par le médecin généraliste, ou comme on l'a entendu d'ailleurs pendant la mission d'information avec Bastien Lachaud, des psychiatres dans les cliniques privées qui n'hésitent pas à utiliser leur monothérapie pour viriliser, on va dire, les jeunes hommes, ou carrément, en fait, les séances de sismothérapie qui ne sont rien d'autre que des électrochocs avec les dégâts collatéraux qu'on peut bien imaginer quand on a subi des électrochocs. Donc, en fait, si vous voulez, dans la définition que j'ai eu à cœur de donner justement pour ce sujet, c'est plutôt, en fait, des pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne.
Et alors, vous-même, vous vous êtes intéressé à cette question, et dans le travail que vous avez accompli, finalement, qu'est-ce que vous pourriez nous dire du contenu de votre proposition de loi dans les grandes lignes ?
Alors, dans les grandes lignes, d'abord, on apporte une définition de ce que sont les thérapies de conversion pour qu'on sache exactement de quoi on parle, pour bien faire la distinction avec d'autres infractions qui se trouvent dans le code pénal et dont on pourrait éventuellement s'accaparer pour déposer plainte, par exemple, comme l'abus de confiance, le harcèlement ou les violences, des choses comme ça. Ensuite, on explore le volet, comme je l'ai exposé juste avant, le volet religieux, le volet médical, le volet social, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que le premier vecteur, les premières personnes qui vous envoient finalement pour subir ces pratiques d'un autre âge, ce sont quand même malgré tout des parents. Et on a quand même, je pense qu'il est important de rappeler et de faire entendre à ces familles, en fait, bien souvent croyantes et très pratiquantes, quelle que soit la religion, j'insiste bien sur ce sujet, c'est interdit et que ce n'est pas parce que certains comportements, notamment l'homosexualité, est décrite de façon vraiment horrible dans le catéchisme, que forcément on est obligé d'appliquer les seuls textes qu'on se doit de respecter, ce sont ceux de la République. Donc
tout à fait.
Donc c'est la raison pour laquelle il me semblait important aussi de noter ce point dans ce texte. Il y a aussi une partie sur l'éducation. Où justement avec Jean-Michel Blanquer, qui est très au fait de toutes ces questions sur la lutte contre l'homophobie, la transphobie, enfin voilà. Donc ça nous paraissait aussi important de rajouter cette partie sur l'éducation. Mm-hmm. Et puis il y a aussi donc une demande de rapport au gouvernement à terme pour se rendre compte finalement de l'intérêt justement de cette loi, l'efficience en fait du texte dans la vie de tous les jours en fait.
Alors, est-ce qu'il y a des différences au regard du droit positif français par rapport aux lois semblables qui sont entrées en vigueur alors dans différents pays, à Malte, aux Samoa, aux îles Fidji, à Taïwan, Albanie, Brésil, Argentine, Équateur, et puis alors, dernièrement, là, le 8 mai 2020, en Allemagne pour les mineurs notamment.
Oui. Ben justement, c'est ce dont j'allais vous parler en fait. En fait, moi, j'étais un petit peu surprise et alors un petit peu. Alors, par contre, je n'ai pas fait d'études comparées mondiales sur sur les textes, bien sûr, sur luttant contre les thérapies de conversion. Mais bon, Malte s'y est pris un petit peu tôt et en 2016 déjà, hein, ils avaient déjà préparé leur législation. D'ailleurs, je me suis un peu inspirée de faut bien le dire, hein, de leur façon de faire. Et par contre, donc pour en revenir à l'Allemagne, c'était vraiment, j'ai trouvé un petit peu dommage, alors sans vouloir juger ce que font les Allemands, évidemment, chacun est souverain.
Mais pourquoi se limiter simplement, quoi,
c'est ça. Oui, voilà. Pourquoi se limiter aux mineurs? Enfin, j'ai envie de dire, il y a quand même malgré tout, dans une proportion peut-être égale finalement de jeunes majeurs entre 18 et 24, 26 ans. Et même des gens d'un âge bien plus avancé, mais bon, j'imagine dans un pourcentage moindre. Alors j'imagine parce que au niveau statistique, il est très compliqué finalement de savoir le nombre de victimes, enfin annuelles, même si on en a bien une petite idée, mais voilà, c'est un peu compliqué. Et donc voilà, donc je ne comprends pas et j'ai un peu regretté que les Allemands soient allés un petit peu dans la demi-mesure justement concernant la lutte contre les thérapies de conversion. C'est un peu dommage. Je pense que ça exclut de dispositifs d'autres victimes qui en auraient tout autant besoin.
Et votre PPL va-t-elle contenir effectivement des contraintes, des condamnations possibles et de quel ordre?
Ah bah oui, évidemment. Donc il y a des peines d'amende, mais il y a aussi des peines de prison et qui sont augmentées selon les circonstances aggravantes. Voilà, bah justement, je pense que par exemple, c'est un parent qui emmène un enfant, enfin son enfant en fait, donc personne n'ayant autorité hein, sur cet enfant, subir ce genre de thérapie, il me semble important qu'il soit puni sévèrement. Enfin, sévèrement, parce qu'en fait, enfin, le milieu familial, c'est quand même normalement l'endroit où on devrait se sentir le plus aimé, le plus entouré, le plus en sécurité. D'ailleurs, c'est la sécurité, c'est bien, enfin, la sécurité et l'amour, ce sont deux choses essentielles en fait dans la vie et le développement d'un enfant. Donc, si chez soi, on est en danger, c'est terrible pour un enfant. C'est vraiment terrible.
Concernant l'actualité de votre proposition de loi, vous avez été un petit peu choqué, je pense, d'une certaine récupération gouvernementale. Mm-hmm. Et quels seraient vos besoins, en fait, de soutien de la part des assos ou des citoyens, des citoyennes, quels qu'ils soient?
Alors, en fait, ce qui m'a un petit peu choqué, alors là, vous parlez de Marlène Schiappa, moi,
exact.
Je l'ai cité, vous l'avez
j'attendais
pas fait,
que
mais
vous la citiez.
Oui, ben voilà, c'est fait. Parce que, enfin, je pense que je suis connue pour mon franc-parler et voilà.
Oui, et c'est bien.
Voilà. Oui, ben merci. Mais voilà, bon, pour en venir donc à notre sujet, en fait, le problème, c'est que, alors, on peut trouver ça positif finalement que le gouvernement s'intéresse enfin. Ça fait quasiment 3 ans en fait que je travaille sur le sujet, toute seule dans mon coin, avant que Bastien ne me rejoigne l'année dernière pour la mission d'information. Mais ça fait 3 ans que je me bats contre mon groupe à l'Assemblée nationale pour les persuader qu'effectivement il y a un sujet, que j'envoie des courriers au gouvernement, enfin dans l'ancien Édouard Philippe. L'ancien gouvernement d'Edouard Philippe, tout ça, ça reste lettre morte. Et là, maintenant, voilà, finalement, ça semble intéresser, parce que finalement, le sujet va venir sur la table. Alors, bon, ça, cette partie publicité, on va dire, gouvernementale, me convient, puisque finalement, travaillons tous de concert, ça, c'est l'idéal. Après, c'est la manière un peu cavalière, en fait, d'apprendre les choses, en fait. Je l'apprends un week-end, en fait, par le collaborateur d'un collègue qui le reçoit d'un collaborateur de la ministre, enfin bref, quelque chose de totalement irrespectueux, il me semble, envers les parlementaires. Donc là, oui, effectivement, ça m'a un peu fait sortir de mes gonds. Et par ailleurs, ce qui m'embête aussi, c'est que si on isole, en fait, la partie séparatisme, je vois même pas pourquoi on parlait de séparatisme dans les thérapies de conversion, la laïcité tout, éventuellement, bien sûr, mais voilà, le problème, c'est que, bon, je sais pertinemment que cette fois-ci, le projet de loi du gouvernement va être polémique. Oui. Ça va entraîner des débats houleux, enfin, et je trouve tellement dommage de scinder, en fait, ma proposition de loi pour en tirer quelques petits morceaux et les jeter en pâture, j'ai presque envie de dire, au milieu des débats. Je trouve ça tellement dommage, alors qu'en fait, le texte que je propose peut remporter un consensus. Je le sais parce que j'en ai discuté avec des collègues du Parti Socialiste, chez des communistes, j'en ai parlé avec la France Insoumise, évidemment. Tout le monde est d'accord pour me suivre, en fait. Donc, en fait, cette proposition de loi aurait pu, en fait, remporter un grand succès et être un vrai marqueur pour La République En Marche, qui, au début de ce mandat, rappelons-le, a quand même traîné les pieds pour qu'on puisse discuter de la PMA. Là aussi, ça a encore été un sujet pour moi. Il a fallu que je me batte avec les uns et les autres pour que le sujet avance. Enfin, voilà, il y a tout un tas de sujets en lien avec les LGBT qui sont un peu écartés, ou en tout cas retardés. Et là, je me dis, c'est quand même dommage parce que, enfin, moi, personnellement, je me fiche sincèrement que mon nom soit en haut d'une proposition de loi.
C'était pas le problème.
J'avais proposé à Gilles Legendre à l'époque, quand c'était lui qui était président du groupe, de mettre finalement cette PPL, cette proposition de loi, pardon, à disposition de tous les groupes, que ceux qui veulent la co-signer la co-signent. Je me doutais bien qu'il y aurait peut-être un ou deux qui n'auraient pas co-signé, mais ça aurait été, franchement,
cette
expression un peu.
Le temps tourne, je suis désolé, je vous remercie.
Mince,
ben oui, mais c'est toujours comme ça. On se quitte, bons amis. Merci beaucoup, Laurence Vansen. Brock pour nous avoir parlé de ces thérapies de conversion, et on vous souhaite une très très bonne soirée.